Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord à l'équipe de Pop en Stock pour cette journée. Alors le titre est un peu trompeur puisque, pour tout vous dire, c'est un travail qui est en progression, étant donné que le corpus est très vaste. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de m'attarder principalement sur deux films. Le premier, c'est Léon de Luc Besson qui est paru en 1994. Et le deuxième et troisième, c'est John Wick 1 et 2 qui sont sortis respectivement en 2014 et 2017. Je vais parler aussi un petit peu brièvement de Hitman, de la célèbre série de jeux vidéo d'IO Interactive. Alors, avant de commencer, j'ai préparé un petit montage sous forme de mise en bouche. Et voilà. Alors, c'était une façon de présenter avec humour les trois œuvres dont je vais parler aujourd'hui. Le but va être de s'intéresser à ces tueurs et de montrer en fait la différence de représentation du tueur à gages entre ces différentes années, c'est-à-dire de 94 Léon jusqu'à aujourd'hui. Voir surtout l'évolution de leur représentation dans la culture populaire. Au départ, on est face à un homme qui est inadapté à la société, dans Léon. Et ensuite, on se retrouve face à un homme froid, implacable et surtout totalement intégré dans un monde cosmopolite, dans John Wick et aussi dans Hitman. En fait, le tueur à gages devient un personnage recyclé, pour reciter Adorno bien sûr, dont l'imaginaire global va évoluer vers une forme symbolique. Je vais en parler en termes politiques et économiques à la fin. Je vais commencer par donner une définition du personnage du tueur à gages, avant de discuter du tueur à gages comme d'un paria avec Léon, et de la notion de tueur à gages comme élite mondiale dans un second point. Et après, je parlerai de sa symbolique moderne à l'heure du marché de masse, du mondialisme en termes politiques et économiques, comme je disais. Alors, tout d'abord, pour une définition du tueur à gages. Il n'y a pas énormément de références sur le tueur à gages, j'en parlerai de ma conclusion, mais il y a vraiment presque personne qui a travaillé dessus en fait. Donc c'est difficile de trouver des choses, mais Andrew Spicer a écrit un article intéressant sur ce personnage-là, où il étudie plusieurs films, dont les films de Melville et de John Woo. Il nous explique que « The hitman is someone paid to kill, hired by an individual, an organization or a government to perform the contracted hit. The hitman may be distinguished from the vigilante, who takes law into his or her own hands, usually for personal reasons. The mercenary, who is always part of a group. The revenger, who has an explicitly personal motivation. The special secret agent, who, even if he is licensed to kill, is not employed solely for that reason. And the psychopath, who kills for no reason. » En fait, pour illustrer cette définition, on pourrait donc dire que The Punisher est un peu le Revenger, alors le vigilante qui tue pour des raisons personnelles. Un des badass de Expendables pourrait être un mercenaire. James Bond, c'est l'agent secret. Et Charles Manson est le psychopathe. J'ai aussi tenté de revenir un petit peu à la source de la définition, et un auteur qui s'appelle Claude Gauvin nous parle des premières tentatives de définir la profession au Moyen-Âge, en fait. Il nous dit « À la fin du Moyen-Âge, les sources judiciaires font sortir de l'ombre l'équivalent de nos tueurs à gages, signe de leur criminalisation. Ils sont désignés en moyen français par une expression assez proche de la nôtre, batteur à loyer. Dans ce cas, la double caractéristique des individus est clairement marquée. En premier lieu, il s'agit d'hommes qui usent de la force sous la forme de la batture, c'est-à-dire qu'ils sont chargés de battre l'adversaire sans préjuger du résultat corporel de leur intervention, c'est bien dit, blessure ou mort. En second lieu, ils reçoivent pour ce faire un loyer, donc une rétribution qui peut être sous forme d'argent ou autre bienfait. » Donc être tueur à gages, c'est être solitaire, souvent, payé pour tuer par une personne ou un consortium, et donc faire sa propre entreprise à partir du meurtre, j'aime bien le terme entreprise, j'en parlerai à la fin. C'est considéré comme une activité commerciale comme une autre. Autrement dit, il n'y a pas de haine, le tueur est un professionnel, dédicace à Jean-Paul Belmondo. Dans un premier temps, je vais m'attarder sur le personnage incarné par Léon, qui est une représentation très très éloignée de John Wick, comme on le verra tout à l'heure. La première chose à noter, c'est que Léon est ce que j'appellerais un paria. Dans le film de Luc Besson, il habite à New York, il vit tout seul, avec une plante, cela dit. Il vit dans un appartement miteux, et il semble posséder des facultés intellectuelles assez limitées. Il est manipulé par un mafieux qui garde son argent, et il ne pose jamais vraiment de questions en fait, à ce dernier, à ce sujet-là. Il passe ses journées en Marcel, je sais plus ce que c'est en québécois, c'est camisole. Nous on dit Marcel, c'est bizarre. Il passe ses journées en camisole, il arrose sa plante, il boit du lait. quand il ne tue pas les gens comme une véritable mort galopante, en fait. On est face ici à une représentation du tueur à gages comme rebut de la société, vraiment. C'est une vision qui existe en fait depuis le Moyen-Âge, comme l'explique Claude Gauvard, et qui se perpétue jusqu'à Léon. Le criminel, celui que la société condamne, ne peut être qu'un misérable, en fait. Il est caché à la vue de tous, et il ne partage certainement pas la vie des personnes normales. Léon n'a pas de vie sociale, il n'a pas de projet, il vit, voire il survit. C'est un personnage type d'une misère sociale comme aurait pu le dépeindre Zola, par exemple. En fait, c'est plus une victime qu'un prédateur. Le deuxième point, c'est que Léon représente le personnage du tueur à gages comme personnage sensible. Même s'il est extrêmement efficace. Cette sensibilité vient de sa personnalité, comme l'explique André Caron. Léon révèle une personnalité à la fois simple et pathétique. Son efficacité provient de son innocence. Léon est un gamin qui tue avec la naïveté, la pureté et l'ignorance d'un enfant. C'est un enfant dans un corps de géant. Alors j'aime bien cette idée de l'enfant dans un corps de géant, ça me rappelle Steinbeck en fait, dans cette idée que le pauvre est forcément innocent et qu'il ne veut pas le mal. Le prolétaire, autrement dit, est l'exemple même de l'être humain. Celui qui participe de la commande des Sensi, comme dirait Orwell, même si c'est un peu exagéré avec Léon. En fait, Léon représente l'homme simple, celui qui tue sans comprendre, qui est manipulé par un mafieux et qui ne peut finalement que retrouver son âme au contact d'une enfant. C'est-à-dire dans le film de Besson, Mathilda, qui est incarnée par Nathalie Portman, ce qui va changer son destin de tueur à gages. Donc André Caron nous dit, si Léon hésite longuement à accueillir chez lui Mathilda, un peu après le meurtre de sa famille, c'est parce qu'il sait que ce geste changera sa vie jusque-là tranquille. L'émotion qu'il éprouve pour elle le rend plus humain, donc mortel. Lorsqu'il accepte un nouveau contrat, il en ressort blessé. Et quand il découvre la fugue de Mathilda, qui a décidé de tuer elle-même le détective assassin, il ne réfléchit pas, il fonce directement au poste de police pour délivrer sa pucelle. Alors, j'aime bien le terme aussi de pucelle ici, parce que André Caron met l'accent sur le caractère chevaleresque de Léon, qui est très particulier pour un tueur à gages. Autrement dit, notre tueur à gages devient un chevalier à partir du moment où son but est de sauver quelqu'un. De surcroît, une jeune fille innocente et fragile, dans le film. Le tueur à gages n'est plus un tueur à gages, parce qu'il ne tue plus pour l'argent. Ici, Léon signe son arrêt de mort en n'étant plus ce qu'il doit être aux yeux de tous, et en fait, il ne remplit plus son contrat de lecture. Mafieux et spectateur compris. Il entre dans la peau d'un The Punisher, par exemple, un vigilante. Il gagne une humanité que le tueur à gages n'est pas censé avoir. Donc, en ayant quelqu'un dans sa vie, en devenant une forme de père spirituel et donc une personne engagée dans la société, Léon apparaît aux yeux des autres et devient mortel. Le tueur à gages, en fiction, peut être invincible tant qu'il reste dans l'ombre et dans son monde caché. Ce qui est très très loin de la représentation contemporaine véhiculé par John Wick. John Wick est différent en bien des aspects de Léon. Tout d'abord, il habite un appartement magnifique, immense. Il conduit une Mustang, quand même. Sa femme ayant disparu, il ne lui reste plus qu'un chien qu'elle lui avait offert. Alors, je vais spoiler, je suis désolé. Il est intéressant de noter que dans Léon, c'est l'enlèvement de Mathilda qui va précipiter la colère du tueur à gages, incarné par Jean Reno. Dans John Wick, le chien va se faire tuer. Et ça va déclencher une série de gunfights hallucinantes. Comme le dirait mon directeur de maîtrise Denis Mélier, quand on lit un policier ou quand on regarde un thriller, on peut aller vers la fin et ensuite comprendre l'évolution. Quand on voit la fin et le nombre de cadavres de John Wick et qu'on revient au début, on se dit « Ok. » Chacun ses priorités, justement, et c'est bien là l'essentiel. John Wick n'a pas du tout les mêmes priorités que Léon parce qu'il n'est pas dans la même classe sociale. Parce que John Wick, avec son chien, sa Mustang et sa superbe maison, est d'une autre catégorie sociale. C'est un homme de la classe aisée, je dirais même très aisée, qui s'habille très bien, contrairement à Léon, qui vit dans le luxe et qui est intégré à la société en tant que consommateur, voire plus. Encore une fois, j'ai préparé un court montage sur cette idée de John Wick comme faisant partie d'une élite sociale. Et quelqu'un qui, je le disais, vit dans le luxe, mais surtout qui est un tueur à gages, spécial puisqu'il participe d'un monde dans lequel les clubs privés, les clubs fermés existent. Il a le droit d'entrer dans ces clubs, il achète au marché noir des vêtements et des armes. À ce titre, en fait, il est plus seulement dans la classe aisée, mais il est vraiment dans une élite, il est dans les 1%, voire 0,1% de la planète, que j'appellerais le monde obscur, le monde souterrain, en fait. Et c'est surtout quelqu'un qui est intégré pleinement dans le monde mondialisé, dans l'économie total, c'est un cosmopolite qui peut s'adapter à toute forme de culture. Loin d'être de la condition de Léon le prolétaire, John Wick est donc un cosmopolite qui est intégré dans le mondialisme. Il parle plusieurs langues couramment, russe, italien, anglais notamment, de ce qu'on sait. Il est au courant des manières de la haute société, comme on a pu le voir avec le tailleur, et il peut se confondre dans un pays à la fois familier de sa culture et pleinement intégré au monde dans lequel il agit. C'est un élément qui rappelle celui d'Hitman, donc c'est là que je vais parler un petit peu de cette série de jeux vidéo, dans laquelle le joueur incarne un clone qui est un tueur à gages, une machine à tuer qui est capable de s'infiltrer dans n'importe quel territoire du monde, de copier les coutumes, les attitudes et finalement d'être le prédateur idéal dans une société. Dans le dernier jeu de la série, par exemple, le joueur est amené à voyager au Japon, à Bangkok, en bas à droite, en bas à gauche, Sapienza en Italie, et en bas à droite, à Paris. On remarque à chaque fois, le costume change, parce que le jeu est basé là-dessus, donc c'est bien que le tueur à gages peut se métamorphoser et s'intégrer dans chaque société dans laquelle il voyage. Encore une fois, on est très loin de Léon. Le tueur à gages moderne, plutôt même contemporain, c'est-à-dire John Wick et Hitman, est donc un citoyen du monde, vraiment. Un homme qui, par sa capacité à jouer le caméléon, se révèle bien plus dangereux que Léon, qui lui est seulement capable de survivre à New York, même si ça reste une ville très cosmopolite, et encore avec l'aide d'un mafieux qui le manipule. Comme le dit Andrew Spicer, « The contemporary hitman is the product of modern urbanism and the development of organized crime in America. » During the 20s, that saw murder becoming a commercial business, performed by a new professional elite. J'aime bien ce terme d'élite, c'est vraiment l'idée que je veux véhiculer. Qu'à partir d'une certaine époque, on a considéré que c'était plus des gens d'une basse extraction, mais c'était bien des élites qui manipulaient ce marché-là. Un assassin d'élite, donc, dans un monde où le seul vrai adapté, peut survivre et dominer le marché. Alors c'est là que je vais parler un petit peu d'économie, enfin de personnages et économie. Comme je le disais plus tôt, le tueur à gages, rebut de la société ou élite, agit dans l'ombre. Il appartient à un monde que nous, simples mortels, nous ne connaissons pas. La société le rejette, ou bien il domine la société. Ce monde est bien mis en valeur dans John Wick ou dans Hitman, où cet univers secret dispose de sa propre monnaie, ça c'est dans John Wick, son réseau souterrain, ses clubs privés, ses hôtels, ses boutiques au marché noir. C'est en fait un monde dans le monde créé par et pour l'élite. Je trouve qu'il est intéressant dès lors de faire ce parallèle entre la représentation fictionnelle et les études économiques, que j'aime bien. Je me suis donc penché sur une étude de l'excellente revue du Maros, qui porte sur l'explosion de l'économie souterraine en Russie. Il nous explique que d'un système où les rapports entre les agents économiques sont incertains, aléatoires et régis par des règles informelles et souples, l'économie parallèle se transforme en un système social structuré qui s'auto-reproduit et ne se contente pas d'échapper au contrôle et à la surveillance de l'État, mais possède une organisation et une autonomie propre. C'était une étude qui portait sur le développement de l'économie parallèle en Russie. Ça tombe bien, la Russie, tueur à gages, on est dans les clichés. C'est exactement la même chose dans le monde souterrain de John Wick. C'est un État dans l'État, avec ses propres règles, ses propres lois. En fait, c'est une manière pour la fiction de nous dire que le tueur à gages ne peut évoluer que dans une classe haute et même dans une classe, la classe suprême. Celle des complots, des cachettes, c'est-à-dire celle que l'on ne connaît pas, vraiment les secrets. C'est 1% du monde, en fait, qui participe c'est 1% du monde participe, en fait, de cet univers, et les économistes vont un peu plus loin en parlant de la peine de mort, en fait, en Russie. Ils disent, bien que la peine de mort ait été abolie en Russie, les débiteurs insolvables savent que ce qui les attend, ce n'est pas une longue procédure judiciaire, mais la balle d'un tueur à gages. Cela montre que le droit de l'ombre est plus sévère que le droit légal. Oui, le droit de l'ombre est plus sévère, car c'est celui des initiés, c'est celui en fait d'une caste qui est hors de la société normale. Par exemple, dans John Wick 2, le personnage va briser une règle de sa propre société, et il va se condamner au tueur à gages, en fait, aux concurrents, qui vont chercher à le traquer et à l'éliminer. Preuve, s'il en faut, de la sévérité de ce monde. Je continue avec Homo Novus, en disant que la représentation populaire du tueur à gages a vraiment évolué de Léon à John Wick. En 2 décennies, la fiction a fait passer ce personnage des bas-fonds de la société à une élite cosmopolite. Profession de l'ombre réservée aux parias de notre société, elle est devenue celle des plus habiles, des plus malins et des plus adaptés, en fait. Les déclassés, incultes et asociaux, cloîtrés dans leur solitude et leur misère, faisaient de redoutables assassins il y a près de 20 ans. Mais maintenant, ce sont les personnes les mieux éduquées, les plus civilisées, les plus rompues au code de la classe néo-aristocratique, qui forment les assassins de notre époque. Aussi, l'évolution du tueur à gages dans la fiction représente l'évolution, selon moi, des représentations populaires de notre modèle économique. Le tueur à gages qui était un rebut auparavant, un personnage honteux, celui qu'on cachait vraiment, est devenu l'élite, il est devenu le prédateur. Ce n'est plus l'homme soumis, c'est surtout l'homme qui domine, c'est l'homme de la classe aisée. Je trouve que c'est une évolution qui me rappelle celle de, en fiction de l'employé de banque, le financier. Autrement dit, celui qui est passé du statut d'homme civilisé, modèle de société, à celui de sauvage, amoral et décadent. On pense à American Psycho, par exemple. Donc la fiction réinvestit un regard populaire sur ses élites et le monde qu'elles défendent. Le tueur à gages ne peut plus être le prolétaire qui souffre, la sociale en perte de repères, mais c'est l'homme raffiné, c'est l'homme international, qui appartient à un monde secret, un monde de club obscur. Un réseau clandestin où l'argent même est différent. Comme dans John Wick, où la morale n'est pas la même que celle du monde civil, où les règles ne s'appliquent pas. Une société dans une société, un monde dans un monde, un univers caché, à la fois au-dessus des hommes et en dessous d'eux dans les tréfonds des villes. Un mal qui n'est pas nouveau mais ancien, celui des Arkham en fait, sur lequel la fiction ne peut que fantasmer et spéculer. Et le fait que son raisonnement a mené au fil des années à imaginer que l'assassin le plus redoutable de notre époque est finalement le plus noble en apparence. C'est ce que dit Claude Gauvin en disant « Les tueurs à gages appartiennent donc à un monde inversé, celui du secret de la nuit, mais aussi celui d'une violence débridée. Leur terminologie vague, l'analogie entre les satellites de Satan et ceux qui agissent pour un commanditaire, révélait déjà une certaine confusion, qui n'est pas seulement celle du vocabulaire, mais qui s'enracinait dans un usage particulier de la force. » Donc là, il parle vraiment des représentations au Moyen-Âge. Donc j'ai fait un montage absolument dégueulasse. Je terminerai cette présentation en disant que le travail ne fait que commencer. Comme je disais tout à l'heure, les recherches sur le personnage du tueur à gages sont vraiment loin d'être légion, et tout reste à faire en fait sur cette figure. J'espère pouvoir continuer à développer cette idée en allant chercher plus loin dans le temps, en m'attaquant à des œuvres plus variées, donc le cinéma hongkongais, le cinéma de Melville bien sûr, et que ce tueur à gages qui file entre les doigts encore apparaîtra plus clairement dans ses multiples recyclages populaires. Je vous remercie de votre attention. Je suis prêt à prendre vos questions comme des balles pendant un gunfight.